essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le plus de réponses. Inversement, tu vois, sur une cible qui est très tech, bah, ça va peut-être prendre davantage sur une. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans tous les cas sur du.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Alors avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler d'une nouveauté sur Vendu qui pourrait bien changer la donne pour vous et votre équipe. Une étude a démontré dernièrement que près de la moitié de vos deals sont perdus juste après le premier rendez-vous. Dans un contexte économique difficile, associé à un marché saturé, vos taux de conversion vont fortement dépendre de votre capacité en interne à réussir vos rendez-vous commerciaux, mais aussi à surmonter l'indécision de vos prospects. Pour augmenter votre taux de closing, j'ai créé les Review Sales Meetings. C'est une solution directement inspirée de mon expérience de directrice commerciale, ayant signé près de 3000 clients de taille et de secteurs différents. En fait, j'accompagne les commerciaux en leur fournissant des conseils sur mesure pour chaque étape du rendez-vous et un plan d'action pour implémenter mes recommandations. Comment je fais? J'écoute tout simplement les enregistrements de leurs rendez-vous et j'en tire une analyse complète. Alors si vous souhaitez améliorer les techniques de vente de vos commerciaux, lancer une nouvelle offre ou démarcher un nouveau segment, rendez-vous sur www.vendu.fr, cliquez sur « Faire analyser mes rendez-vous » et laissez-vous guider. Allez, on va retrouver notre invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Florian Rosat, qui est growth marketer B2B et qui est créateur du média Outbound House. Comment tu vas, Florian?
Salut Laetitia, bah écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir ici, je suis très content.
Avec plaisir, avec grand plaisir. Je suis content parce que effectivement, bah, je pense que pour parler Outbound, tu étais un des meilleurs invités à avoir cette année. L'objectif en fait de cet épisode, ça va être de parler de prospection. Mais surtout, on va plutôt parler de comment déclencher des conversations, notamment parce qu'on le sait, la prospection c'est devenu de plus en plus dur. Il y a quelque temps, il y a eu un énorme switch dans la prospection où l'idée, en tout cas ce qui est dit, même si tout le monde ne le fait pas, c'est de ne plus booker, de demander de booker des rendez-vous, mais de déclencher des conversations qui vont amener petit à petit à des rendez-vous. Et donc du coup, ça demande du coup de la technique. Tout le monde ne l'a pas et l'idée, c'était de parler de ça avec toi. Mais avant de commencer, bah, présente-toi un petit peu.
Ouais, bah écoute, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian, je suis growth marketer B2B. J'ai une spécialité sur la prospection. Donc principalement, on part du cold emailing et de la prospection LinkedIn. Moi, je ne fais pas de cold call. Je fais tout ça en freelance. Je suis freelance depuis à peu près 6 ans, même si ça ne fait pas 6 ans que j'ai cette spécialité en prospection. Je bosse principalement avec des startups et des PME dans du B2B, principalement dans la tech. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, j'ai un média qui s'appelle Outbound House. C'est un média dans lequel j'interview des experts en prospection. Ils partagent l'une de leurs séquences en vidéo. Et en fait, ça, c'est... L'idée m'est venue, si tu veux, que quand j'ai commencé à vraiment focus sur la prospection, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de ressources concrètes. En fait, tu avais beaucoup de ressources sur comment améliorer ta délivrabilité, sur comment faire ta segmentation, etc. Mais assez peu d'exemples concrets de prospection. Et je trouve que c'est là où il peut vraiment y avoir de la valeur. Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer cette série d'interviews, en fait, pour répondre initialement à mon propre problème.
Trop bien. Et bah, du coup, je conseille fortement d'aller y faire un tour. Ça permet de donner des choses très concrètes, d'inspirer, en tout cas, pour avoir des idées de campagne de prospection qui marchent et qui ont fait leurs preuves, surtout. Et ce que j'aime bien, en fait, dans ton modèle, c'est que tu montres les preuves. Ce n'est pas juste du blabla. On a vraiment ensuite voilà, le procédé et les résultats derrière une campagne. Du coup, on va commencer juste... Ouais, excuse-moi.
Ouais, l'objectif, c'est que ça... Ouais, je disais, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment actionnable pour les gens qui regardent. Et je pense que pour l'instant, c'est plutôt réussi là-dessus.
Yes. Du coup, justement, en rentrant dans le vif du sujet, aujourd'hui, c'est compliqué de déclencher des conversations. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire là-dessus sur la prospection, sur un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette partie-là? Est-ce que c'est toujours possible d'avoir des rendez-vous? Je te pose la fameuse question avec des emails et avec LinkedIn. Parce que tu n'utilises pas le téléphone.
Par rapport au switch dont tu parlais, pour partir un peu de là, je pense que le switch, bon, tout le monde a à peu près en tête de quoi il s'agit. C'est que forcément, la prospection via le cold emailing, via LinkedIn, via les automations, c'est devenu de plus en plus accessible, là où c'était réservé à des gens peut-être un peu plus geeks avant. Maintenant, c'est très facile de le faire. Maintenant, le faire bien, forcément, c'est plus compliqué. Je pense qu'avant, la priorité, c'était pas forcément de déclencher des conversations. Avant, on avait sûrement une approche qui était un peu plus directe, avec des calendriers qui sont poussés dès le premier email, voire des landing pages, etc. On avait moins, je pense, cette idée de déclencher des conversations. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel, qu'on va très rarement booker un meeting directement sur un premier email. Ce qu'on cherche à avoir, déjà, c'est une conversation avec le prospect. Déjà, ça va nous permettre d'avoir des éléments sur lesquels rebondir, hein, puisque dans les réponses, ça nous permet d'orienter nous-mêmes nos retours. Donc, à partir du moment où la personne répond, l'email, la séquence s'arrête, on n'a plus de relance automatisée et on peut répondre de manière plus personnalisée. En fait, moi, je vois le début de cette conversation comme une première étape d'un entonnoir qui dirigerait à ce moment-là vers un échange qualifié, un call ou une démo.
Ok. Alors, du coup, très cool ça, mais comment tu t'y prends, en fait, tout simplement ? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, ok, t'envoies des messages, t'as aucune réponse. Comment tu fais pour déclencher cette conversation ? Comment tu fais pour faire en sorte qu'une personne se dise... Ok, ce n'est pas l'énième message que je reçois. Cette fois, je vais répondre.
Ouais. Juste avant de parler de ça, je vais juste quand même préciser qu'on en parle trop peu, mais quand même, pour moi, ce qui reste, avant de parler de toutes ces choses, ce qui reste essentiel en prospection, quand même, c'est d'avoir. C'est que son produit ou son service, ils répondent à plusieurs critères.
Ouais, bien sûr.
Donc, on va passer très rapidement là-dessus, mais c'est vrai que c'est forcément plus facile avec un produit ou un service qui est différenciant versus, je sais pas moi, une agence vidéo qui fait la même chose que toutes les autres. Bah, forcément, ça va être plus difficile en prospection. C'est plus facile aussi s'il y a de l'intent data qui est disponible. Donc, l'intent data, tu sais, c'est des signaux d'achat. Ça peut être l'utilisation d'un produit, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un recrutement. Donc, c'est des informations sur lesquelles on peut s'appuyer. Et surtout, je trouve qu'on parle trop peu de la nécessité d'avoir une bonne offre. Forcément, ouais. Tu vois, parfois, tu as des boîtes, un peu l'exemple caricature, hein, mais tu as des boîtes qui ont actuellement zéro client ou alors que des clients qui proviennent du réseau, etc. Et qui s'imaginent tout de suite à pouvoir avoir des résultats extraordinaires sur de la prospection. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Hein. Ça peut permettre d'obtenir des feedbacks précieux. Mais forcément, toutes ces choses vont avoir une grande importance.
Je te rejoins juste pour compléter. Parce qu'en fait, parfois, on peut avoir l'impression d'être contacté parce qu'on dit, voilà, on a un problème en prospection, on ne comprend pas, on n'a pas assez de rendez-vous, etc. Parfois, on peut être amené à avoir mis en place plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et effectivement, parfois, c'est vraiment en amont le problème. Le problème vient du positionnement, le problème vient de l'offre. Et du coup, ça, c'est des choses sur lesquelles n'importe quelle personne ou même un sales n'a aucune prise là-dessus. Et donc, c'est bien en tout cas de le rappeler parce que parfois, les problèmes de prospection ne viennent pas de la technique, ne viennent pas du canal, etc. Donc, merci en tout cas de l'avoir précisé.
Ouais, complètement. Et puis, ça va impacter toutes les autres équipes, enfin, tous les autres canaux, d'acquisition. Maintenant, sur comment déclencher des conversations, moi, je pense que ça passe principalement par l'art de poser des bonnes questions. Et c'est pas si facile que ça. Pour moi, les critères d'une bonne question, déjà, c'est qu'on doit pouvoir y répondre facilement. Sans se prendre la tête 1000 ans à réfléchir. Tout à l'heure, si tu veux, je te donnerai des exemples un peu de bonnes questions et de mauvaises questions pour pouvoir illustrer un peu plus concrètement.
Ok.
Donc, on doit pouvoir y répondre facilement. En même temps, c'est une réponse qui doit pouvoir aiguiller le sales ou le growth qui gère les campagnes. Tu vois, on cherche pas non plus à ce que la personne nous dise... Si la personne nous dit oui, non, ou nous répond... vraiment sans donner d'informations, ça va être compliqué de rebondir derrière. Donc, c'est vraiment un juste milieu à trouver. Idéalement, du coup, ce que ça donne, c'est une question ouverte qui demande pas trop de réflexion à la personne. Parce qu'on le sait, les gens, ils n'ont pas le temps. Personne n'a 5 minutes à prendre pour répondre à un cold email, hein, sauf très rare cas. Donc on veut une question ouverte qui va nous permettre d'avoir des informations, mais qui demande peu d'efforts à la personne pour répondre. Et ça, souvent, c'est assez peu appliqué parmi les gens qui envoient des cold emails ou de la prospection sur LinkedIn. Si tu veux, je peux commencer par quelques exemples que moi, je vois souvent et qui, pour moi, sont pas des bons, enfin qui sont des mauvaises questions. Et après, j'enchaînerai ouais. avec des exemples pour moi qui sont des bonnes questions. Le premier exemple, tu vois, c'est toutes les questions. On le voit de moins en moins, mais on le voit encore un peu. C'est des questions grosses ficelles. J'appelle ça des questions grosses ficelles avec des trucs où tu sens direct que tu tombes dans un piège sales, tu vois. Par exemple, si je te dis, ouais, Laetitia, est-ce que tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires? Moi, ce genre de question, ouais. elle sert à rien. Elle va pas orienter la conversation. Évidemment, tout le monde a envie d'augmenter son chiffre d'affaires. Y a des cas aussi où je vois des questions, tu vois, où les gens se tirent un peu une balle dans le pied avec des questions fermées dès le premier mail. Tu vois, par exemple, souvent, on va demander à la personne si c'est elle qui est en charge de ces sujets. Pour moi, là, c'est une opportunité un peu trop facile pour la personne de dire non. Et après, éventuellement, elle peut t'aiguiller ou pas vers la bonne personne. Mais ce genre de questions, moi, je veux plutôt les réserver en fin de séquence. Et puis, a priori, si tu as bien fait ton ciblage, tu devrais quand même avoir la personne qui est en charge ouais. de ces sujets. Mais c'est peut-être une porte de sortie un peu trop facile pour la personne de se dire qu'elle n'est pas en charge de ces sujets, que ce soit le cas ou non.
Et puis surtout, parfois, c'est généralement des questions, en tout cas, sur lesquelles tu as peu de réponses, parce que les gens ne vont pas répondre à un truc aussi... parfois souvent aussi un peu aussi basique s'il n'y a pas eu de discussion derrière ou s'il n'y a pas de... Enfin voilà, en tout cas moi j'ai l'impression que ce n'est pas les endroits où tu as le plus de réponses. Quoi.
Ouais, ou alors en fin de séquence, moi je trouve que je l'utilise toujours plutôt en fin de séquence, en mode repêchage, tu vois, pour si vraiment tu n'as pas eu de réponse tout au long de la séquence, ça peut te permettre de gratter quelques infos sur une personne qui serait le contact supplémentaire, si c'est la raison de la non-réponse, mais en tout cas, pas de le premier email. Ensuite, tu as aussi toutes les questions qui demandent... Ça, je le vois beaucoup, c'est, tu vois, toutes les questions qui demandent trop de réflexion. En fait, tu as la flemme de répondre. Donc, par exemple, ouais. si je te dis, ouais, toi, Laetitia, c'est quoi tes priorités pour vendu sur les 3 prochaines années, tu vois?
Ouais, je ne veux pas te répondre. Tu vois, en pleine journée, ouais, clairement, je ne répondrai pas.
tu sais pas, ça demande de l'introspection, ouais. etc. Donc, trop compliqué. Et puis sinon, t'as toutes les questions trop génériques, trop directes. Tu vois, si je te dis, bah tiens, on a sûrement des synergies, ça te dit qu'on échange. Bon, il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose. Ok, maintenant qu'on a fait les mauvais exemples, je te propose de donner des exemples qui, pour moi, sont des exemples de bonnes questions. Une première bonne question pour moi, c'est quand tu demandes bah, comment est-ce que vous gérez ça en interne. Tu vois, si par exemple... j'ai une proposition de valeur qui est liée à, je sais pas moi, à la rédaction d'articles sur le SEO. Tu peux simplement demander comment est-ce qu'ils font ça en interne, est-ce qu'ils délèguent à une agence, est-ce qu'ils ont quelqu'un en interne ou un freelance. Ça, c'est une première bonne question. Tu peux, un autre exemple que j'ai noté, tu vois, si notamment pour toutes les solutions qui sont liées à l'intégration, tu pourrais très bien voir qu'une personne utilise tel CRM, mettons HubSpot. Et puis que derrière, elle utilise tel autre outil, qui n'a pas d'intégration native, tu pourras leur demander simplement comment est-ce qu'ils intègrent ces deux outils. Soit ils peuvent te donner une solution, ils le font en mode bricolage, soit ils ne les intègrent pas du tout, etc. Mais en fait, tu vois, le point commun de ces deux questions, c'est qu'elles ne cherchent pas directement à vendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ouvrir la conversation sans directement vendre. Les gens voient derrière... Moi, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où tu fais de la prospection, les gens ne sont pas très naïfs, ils le voient, ils savent que ce que tu vas chercher à faire, c'est vendre. Mais il ne faut pas que l'approche soit trop agressive et c'est bien pour ça que tu as des questions qui semblent ne pas vendre, mais qui te permettent toi de récupérer des informations précieuses.
Ok, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, il faut pas essayer, parce que parfois on peut avoir des conseils qu'on voit passer par-ci par-là, de pas essayer d'être trop salesy. Bon, en fait, la personne, si on contacte une personne a priori qui nous connaît pas, elle sait qu'on va lui vendre quelque chose. L'important c'est plus d'avoir, voilà, le sait, c'est plus d'avoir une bonne approche et justement de marquer sur le fait d'avoir une approche un peu différenciante par rapport à tout ce qu'elle peut recevoir généralement, plutôt qu'essayer de montrer que t'as pas envie de vendre. Quoi. Voilà, en fait, t'es là, tu prends une discussion et surtout, enfin, je le dis parce que parfois on peut avoir des trucs en mode genre faut pas que les gens ont l'impression de vendre. Bon, t'es sur LinkedIn, sur un réseau social qui est quand même un réseau social qui permet le plus de vendre aujourd'hui. LinkedIn, autrement on serait ailleurs, hein. On passerait je pense nos journées plus facilement sur YouTube si on voulait passer du bon temps que sur LinkedIn. Donc si on est là, c'est parce que tout simplement c'est que c'est un super canal pour déclencher des conversations. Donc voilà, et puis surtout généralement on a toi, ton ton titre, c'est Growth Marketer. Moi, mon titre, c'est Consultant Sales. A priori, on voit venir à 10
kilomètres. Les gens voient où tu veux en venir dans tous les cas. Je pense qu'il faut... Ouais. Il faut s'enlever ce poids, les gens savent que tu veux vendre. Et pour revenir sur les questions, le dernier exemple que je voulais citer, tu vois, c'est un cas un peu particulier, mais qui est de plus en plus pertinent, je trouve, c'est, tu vois, les ressources. Les ressources, si tu arrives à produire des bonnes ressources, ça peut être des use cases, ça peut être des listes, ça peut être des process à répliquer, etc. Mais en fait, ça te permet d'apporter de la valeur sans directement vendre, parce que tu proposes ta ressource gratuitement. Encore une fois, il faut que la ressource soit quali. Hein, si c'est pour balancer un PDF éclaté, ça ne va pas aboutir à grand-chose. Mais tu vois, si par exemple, je te propose une ressource dont je suis à peu près sûr qu'elle va t'intéresser, parce que j'ai bien fait mon ciblage en amont, tu peux très bien dire à la personne, bah voilà, j'ai telle ressource, tel truc, est-ce que ça te chauffe que je te partage ? Au lieu de le donner directement, tu vois, tu demandes déjà à la personne si ça l'intéresse. Déjà là... La personne, elle peut très, très facilement répondre oui. Ça va te permettre derrière d'ouvrir la conversation et de faire un peu quelque chose que tu vois, un peu comme on peut faire par exemple avec les lead magnets où tu demandes aux gens de commenter. Derrière, ça te permet d'ouvrir la conversation avec eux en DM quand tu leur envoies la ressource.
Ok, mais alors sur ça, je vais juste m'arrêter là-dessus parce que c'est important aussi également. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour qu'en fait, t'assurer qu'elle soit quali ? Parce que, tu vois, à chaque fois, par exemple, que moi, je donne ce conseil aux gens, au final, quand ils me disent « Ouais, effectivement, on aura des choses à communiquer », quand ils me font un peu la liste, c'est souvent pas très bon et donc je sais très bien qu'ils vont pas avoir énormément de réponses. Je te dirais, moi, parfois, des choses que j'ai mises en place, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Comment tu peux checker que tu vas proposer, en fait, la bonne ressource ? Ou comment tu peux checker que tu peux construire la bonne ressource ?
Ouais, bah je pense que la ressource, elle doit être le moins générique possible. C'est-à-dire que je vais reprendre mon exemple de l'agence, mettons une agence SEO. Mettons qu'une agence SEO, elle souhaite pousser un use case. Tu vas l'envoyer, tu proposes à ton prospect de la recevoir pour montrer comment tu as aidé tel client à obtenir tel résultat grâce à telle solution. Si tu fais ça et que tu veux que ça serve à quelque chose à ton client qui puisse se projeter éventuellement en train de travailler avec toi, il faut que cette ressource en question, elle soit sur, par exemple, je sais pas moi, si tu vas prospecter des dentistes, il faut que tu montres un use case que tu as fait avec un dentiste.
Ouais.
Il faut que ce soit une ressource qui soit personnalisée et qui soit derrière actionnable. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on cherche à faire avec les ressources, c'est que la personne elle se dise « Ok, c'est cool, ça permet d'obtenir tel résultat. Peut-être que je pourrais le mettre en place en interne parce que voilà, j'ai 2-3 personnes au marketing. Mais dans la réalité, je sais que ça va être galère. Je sais que je vais gagner du temps et de l'argent si je le fais avec la personne qui vient de me prospecter. Donc, en plus, c'est elle qui vient, elle vient de me montrer qu'elle sait déjà le faire puisqu'elle a fait ce use case. » C'est un peu le sentiment que tu cherches à créer là-dedans.
Ok.
Et la deuxième possibilité aussi, moi, que j'aime bien, c'est, tu vois, quand tu fais des ressources, pour le coup, qui sont encore plus personnalisées, tu vois. Si je reprends l'exemple de l'agence SEO, tu pourrais très bien dire, bah tiens, Laetitia, j'ai vu ton site vendu. Je pense que tu pourrais... Enfin, j'ai trouvé 3 ou 4 gros points que tu pourrais améliorer sur ton SEO. Si ça te dit, je te fais une vidéo, je t'explique tout ça. Donc là, si la personne te dit qu'elle est intéressée, tu fais la vidéo et effectivement, tu l'as fait vraiment pour le site de vendu. Si elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, mais au moins, cette ressource, tu la produis uniquement lorsque tu as l'intérêt. Ça t'évite en fait d'aller produire des vidéos pour chacune de tes cibles. Ça te permet de lancer la conversation avec la personne. Et tu vois, c'est ce genre d'action un peu où tu fais un peu l'extra mile qui, pour moi, aujourd'hui, font la différence, tu vois, sur de la prospection.
Je suis d'accord avec toi. La seule chose que je rajouterais, c'est que je pense qu'on parfois on se coupe de ça. C'est peut-être de demander directement à notre cible. On a toujours, en fait, dans nos clients, des gens qui sont assez partants pour nous donner des conseils. Et donc, moi, je sais que parfois, des trucs que j'essaye, c'est de dire tout simplement, voilà, si je construis cette ressource, à quel point ça peut t'intéresser ? Ou à quel point c'est quelque chose sur lequel, franchement, il n'y aura pas d'intérêt, tu ne vas pas me répondre. Et je pense que ça peut être aussi un bon moyen aussi de construire en fait, des ressources, ou en tout cas avoir des pistes. Mais là où je te rejoins, effectivement, il faut que ce soit personnalisé et que ce soit pas quelque chose que tu pourrais, tu vois, envoyer à 10 000 personnes d'un coup. À terre entière. Mais par contre, en tout cas, tu vois, genre, que ce soit, tu vois, un audit comme tu as proposé sur la partie SEO, ou que ce soit peut-être une ressource, je sais pas, une étude ou un use case, etc. C'est bien de se dire, est-ce que ce format-là, il serait pertinent ou pas? Parce que d'un secteur à un autre, d'un persona à un autre, ça peut être très, très variable. Est-ce que c'est une cible, par exemple, qui consulte tel type de ressources? Est-ce que c'est une cible qui consulte, qui préfère tel type de format? Il y a des gens qui seront plus aptes à regarder un format vidéo, d'autres, au contraire, un format plus écrit ou autre, tu vois. Donc, c'était plus ça que je voulais rajouter.
Clairement. Ça, tu peux le tester avec tes clients, avec... Oui, surtout avec tes clients, en fait. C'est eux qui pourront répondre à cette question. Et puis, le truc important aussi dont moi j'ai horreur, c'est, tu sais, quand tu commandes pour recevoir une ressource sur un lead magnet, donc tu as déjà fait l'effort de commenter le post LinkedIn, etc.
Et que tu ressens rien.
Et que derrière, on m'envoie une landing page sur laquelle je dois encore rentrer mon mail.
Ouais.
Pour moi, c'est trop. Enfin, surtout, dans le cas du lead magnet, c'est encore un peu différent, parce que je comprends aussi que ça peut être intéressant de récupérer l'email. Maintenant, sur de la prospection, on va évidemment donner l'accès directement à la ressource.
Complètement, ouais, très important de le dire, parce qu'on pourrait vouloir avoir l'email pour pouvoir ensuite alimenter du coup sa campagne.
Ouais, mais, on l'a déjà l'email a priori.
Ouais, a priori, si on a fait bien son job aujourd'hui, on l'a. Ok, trop bien, on a une bonne vision des bonnes questions et des mauvaises questions à poser. Est-ce que maintenant tu pourrais donner un petit peu, parce qu'il y a toujours cette question sur le canal, le meilleur canal pour déclencher des conversations. Aujourd'hui, pour toi, c'est lequel, sur lequel c'est plus simple?
Ouais, alors moi déjà, je suis concentré sur cold email et LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que t'as d'autres canaux de communication, t'as WhatsApp, t'as Twitter, etc., que moi, j'explore moins pour différentes raisons. Mais en tout cas, je peux te faire le comparatif entre le cold email et LinkedIn. J'ai pas, au risque de te décevoir, j'ai pas de réponse arrêtée. Moi, personnellement, je trouve que LinkedIn est plus adapté pour faire des conversations, tu vois, parce que c'est un outil de messagerie, en fait. C'est plus enclin à la conversation. Tu peux répondre à un message LinkedIn quand même plus facilement qu'un email. Tu vois, un email, en général, inconsciemment, tu vas un peu te forcer à y mettre les formes et ça va te prendre plus de temps pour rédiger un email que sur la messagerie LinkedIn. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment de la cible. Suivant les cibles, tu peux avoir des grosses différences d'un canal à un autre. Tu vois, sur une cible, mettons, qui est assez peu sur LinkedIn, je ne sais pas quelle cible on pourrait avoir qui est peu LinkedIn. Tu vois, des cibles dans le secteur public, notamment. Généralement, eux, tu vas plutôt avoir des réponses sur de l'email. Tu vois,
ouais,
récemment, j'ai fait une campagne qui ciblait des mairies. Le gros des réponses, on les a eues sur de l'email. Hein. On ne les a pas eues sur LinkedIn.
Ouais, sur LinkedIn, ils sont inexistants, d'ailleurs. Si tu regardes leur
profil... Ouais, tu vois...
Il doit y avoir que
les profils sans photo.
Il n'y a pas de photo. Il doit y avoir, à la limite, l'école où ils ont fait leurs études. Et puis c'est tout, quoi. Tu vois, ça s'arrête là. Le job.
Puis, tu vois, ils vont se connecter peut-être une ou deux fois par mois. Enfin, j'exagère, mais tu vois, tu peux. Sur l'exemple du public, là, c'est assez obvious, mais tu peux quand même essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le plus de réponses. Et puis, inversement, tu vois, sur une cible qui est très tech, bah, ça va peut-être prendre davantage sur LinkedIn. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans tous les cas sur du multicanal. Hein. Donc, je vais alterner LinkedIn et l'email. Et puis, ça me permet de voir s'il y a l'un ou l'autre des deux qui prend.
Ok, trop bien. J'ai deux questions, du coup, avant de passer à la suite, et notamment à des exemples concrets de campagne. Si on prend d'abord peut-être l'email, après on parlera de LinkedIn. Sur l'email, aujourd'hui, tu sais, avec les nouvelles restrictions, hein, je crois que c'était à partir du 1er février 2024, aujourd'hui, est-ce que c'est un canal que tu vas conserver, que tu penses que ce serait quoi ta reco pour tous ceux qui sont en train de dire sur LinkedIn abandonner l'email, faites du content ou faites du cold call. C'est quoi ta position? Je sais que pour moi, je trouve que l'email reste toujours pertinent. C'est juste qu'il faut être plus rigoureux, plus technique et meilleur justement dans sa capacité à déclencher des conversations. Toi, ça va être quoi ta position? Ça va changer quelque chose? Rien pour toi?
Moi, ça va pas changer grandement. Si tu veux, ça va renforcer ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire à savoir faire de la segmentation la plus poussée possible versus adresser des énormes batchs. J'ai jamais été dans cette optique, si tu veux, d'adresser des énormes batchs. Si j'ai une cible qui est assez large, je vais faire en sorte de la restreindre en différents segments pour pouvoir avoir une approche la plus personnalisée possible, sans forcément faire de l'hyper-personnalisation. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même des gros efforts qui doivent être faits en termes de ciblage, en termes de détection des signaux d'achat pour arriver au bon moment et éviter à tout prix d'être perçu comme du spam. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose que je conseillais déjà avant ces annonces, et je pense que c'est d'autant plus vrai après ces annonces. Et ensuite, pareil, hein, faire attention à ces stats d'un point de vue délivrabilité, continuer de créer des domaines qui sont dédiés à la prospection, en faire plus si nécessaire, et privilégier la qualité au volume sur sa prospection. Donc, okay. Pas de gros changements pour moi, juste renforcer les positions qui, a priori, étaient déjà prises avant.
Ok, nickel. Et sur la partie LinkedIn, est-ce que tu as des teams vocales aujourd'hui en France? Tu recommanderais en fait d'utiliser la partie vocale? On voit beaucoup de gens qui du coup vont plutôt faire du texte en fait quand ils vont prospecter. En tout cas, moi, les gens qui me démarchent utilisent principalement le texte. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps de me dire bon, vas-y, je vais peut-être tester la partie vocale. Mais toujours avec une peur quand même de me dire oula, est-ce que ça va être mal pris, surtout sur des C-level, hein, évidemment. Des profils un peu plus sales, etc. Je pense que ça passe très très bien. Mais comme en fait, je fais beaucoup de contenu et donc je reçois beaucoup de messages, et donc pour répondre à tout le monde, parce que j'essaie de répondre à tout le monde, je fais du vocal. Bah, y a des moments où je me suis dit mais pourquoi je le ferais pas aussi pour de la prospection? T'en penses quoi, toi?
Ouais, alors moi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas énormément d'outils de prospection pour l'instant qui permettent de l'automatiser.
Okay.
Ce qui fait que derrière, il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent en prospection. En réalité, moi, je le vois hein, parfois, mais le ratio entre de la prospection purement texte et de la prospection avec des vocaux, bah, quand même, tu as une énorme majorité qui est purement texte. Je sais, moi aussi, que quand je reçois des vocaux, je l'écoute en fait, ne serait-ce que par la curiosité. Là où quand tu reçois un DM LinkedIn, tu vas directement voir les premiers mots qui vont s'afficher sans même que tu ouvres le message. Du coup, tu vas inconsciemment, tu vas déjà faire un tri. Et si ça t'intéresse pas ou si tu sens que c'est trop bullshit, tu vas pas l'ouvrir. Le vocal, t'as aucune info. Donc, ne serait-ce que par curiosité, tu vas l'ouvrir. Donc, je pense que si c'est bien utilisé, ouais, c'est un très bon élément à ajouter à sa prospection.
Okay.
Faut bien le faire, évidemment. Faut pas faire des vocaux de 3 minutes, mais.
De toute façon, tu peux pas sur LinkedIn, c'est une minute.
Oui, c'est une minute, je crois que c'est limité. Ouais.
Exactement, c'est limité. Ok. Du coup, j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc, effectivement, on peut pas automatiser, mais si par exemple, à un moment donné, tu as réussi à déclencher une conversation, ça peut être un outil qui peut être utilisé. Et puis, bah, en amont, ça peut se tester, mais que si on n'automatise pas, si je pense ouais. que.
Si, tu peux l'automatiser. Hein. Tu peux l'automatiser. Aujourd'hui, il y a la Growth Machine qui permet de le faire. Mais t'as d'autres outils qui ne le proposent pas encore, qui très certainement le proposeront par la suite, tu vois, c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que tous les outils ne le proposent pas, c'est une fonctionnalité qui est encore assez peu utilisée. Et puis t'as toujours ce côté, voilà, plus une technique est utilisée, moins elle devient efficace. Pour les vocaux, je trouve que c'est encore relativement peu utilisé. Donc,
à tester.
Là, sur 2024, oui, je pense que ça peut clairement permettre d'améliorer les performances des campagnes. Voilà. De toute façon, les performances, ça repose jamais sur un seul élément. Tu vas pas avoir une campagne qui cartonne simplement parce que tu as utilisé des vocaux. Mais ça peut faire partie des choses qui te permettent d'avoir un meilleur taux de réponse. Ouais.
Ok. Une autre question sur laquelle j'ai envie d'aller, c'est souvent on se pose la question, on voit beaucoup de choses tourner sur les internets. C'est quoi une bonne campagne qui marche, justement, en termes de taux d'ouverture, taux de réponse, taux d'intérêt? C'est quoi, en fait? Je pense que ce serait pas mal d'avoir un petit peu... alors, ça existe, hein, évidemment. Je vois beaucoup de choses aux États-Unis. Moi, c'est ce que je regarde un petit peu pour voir si mes campagnes fonctionnent. Mais toi, du coup, tu dirais quoi là-dessus? Comment tu juges tes campagnes?
En termes de stats?
Ouais.
Ouais, en termes de stats, bah déjà, comment je juge mes campagnes, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les stats, taux d'ouverture, taux de réponse, etc., elles sont là pour nous, en tant que growth, en tant que sales, en tant que personne qui fait les campagnes. Le client, à la fin, il s'en fiche. Si tu veux, si t'as, si t'as 80% de réponse, mais que ça a signé zéro deal, le client, en fait, il sera pas satisfait. Donc, à la fin, pour moi, la seule métrique qui compte, c'est les deals signés ou au moins le nombre d'échanges qualifiés qui ont eu lieu au téléphone ou en visio. Maintenant, j'aime pas non plus parler de vanity metrics sur le reste parce que c'est quand même des stats que t'es obligé d'optimiser. Je vois ça un peu comme un entonnoir. Tu vois, la personne, elle est déjà obligée. Enfin, t'as envie que la personne déjà, elle consulte ton message. T'as envie qu'elle y réponde, si possible, de façon intéressée, et si possible qu'elle book un call derrière. Et encore mieux que ça signe à la fin. Donc en fait, toutes ces étapes, elles sont interdépendantes. Et si tu veux, ouais, je peux te donner quelques stats. C'est des stats qui correspondent à la moyenne et à des objectifs que tu peux viser. Je dis ça parce que, évidemment, toutes ces stats que je vais donner, il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, je fais beaucoup mieux, j'ai utilisé tel truc. » Tu peux évidemment faire beaucoup mieux, mais la réalité, elle correspond à peu près à ces stats. En termes de taux d'acceptation sur LinkedIn, les stats, tu vas être autour de 30-35%. Quand tu commences à dépasser les 35%, ça commence à être bien. Encore une fois, ça peut être largement optimisé. Tu peux doubler ce taux si tu passes par des mécanismes de social warming, donc où tu interagis avec la personne en amont, tu commandes ses posts, etc. Là, tu peux faire beaucoup mieux. Mais la réalité, c'est que la moyenne, tu es quand même plutôt autour des 30-35%.
OK.
Sur du cold emailing, en fait, moi, j'avais envie de te... Parce que j'ai regardé un petit peu, du coup, avant l'enregistrement. Moi, j'avais envie de te dire de viser 50-60% en taux d'ouverture. J'ai regardé un peu les stats et j'ai trouvé des chiffres beaucoup plus bas, aux alentours de 30%. 30%, pour moi, c'est quand même assez alarmant. Et c'est sûrement dû à un problème, quand même. Il y a sûrement un sujet sur la délivrabilité. Moi, j'essaie de viser au moins 50-60%. 30%, je trouve que c'est trop bas. Encore une fois, tu peux faire plus, suivant ta segmentation, suivant le travail sur les objets, les premiers mots de ton message. Sur le taux de réponse, ça, je trouve que c'est la métrique qui a beaucoup changé, notamment dû au fait que la prospection est plus accessible, qu'il y a plus de gens qui en font. Avant, je t'aurais dit de viser les 30% de taux de réponse pour te dire « Ok, là, j'ai une campagne qui marche ». Aujourd'hui, je pense que même déjà à 20%, ça commence à être pas trop mal.
Okay.
Donc pareil, ça peut être amélioré, évidemment, il y a des gens qui font beaucoup plus sur des cas particuliers, etc. Mais si vraiment je prends la moyenne, à partir de 20%, je considère que ça commence à être pas trop mal. Derrière, tu as la métrique que j'appelle le taux d'intérêt, mais donc c'est parmi les réponses combien de personnes sont intéressées. Pas forcément des personnes qui bookent un call ou qui signent, etc., mais des réponses sur lesquelles tu sens que tu peux continuer de creuser et puis d'arriver plus loin dans le process sales. Là, moi, ce que je cherche à viser, c'est 50% de réponses intéressées, parmi les réponses.
OK. Du coup, la moitié de réponses non et la partie réponse
ouais.
Oui. OK. Ouais. Très clair sur ça. Alors, bon, on va quand même dire que, tu vois, une campagne réussie, à partir du moment où tu as des réponses, c'est que c'est positif quand même, même si elles sont non, c'est-à-dire que tu as réussi à déclencher un intérêt et surtout en tout cas une envie de te répondre en te disant c'est pas la peine de perdre mon temps, donc avec une bonne approche. Effectivement, après il y a peut-être des sujets de revenir si on a trop de non, peut-être aller chercher si la segmentation est bonne, si on est sur la bonne temporalité aussi. En fonction de ton produit, tu n'étais pas forcément au bon moment et tu ne prospectes pas au bon moment. Du coup, tu vas te prendre une vague de non, mais qui serait peut-être oui, en fait, 2 mois plus tard. Tu vois. Donc, il y a peut-être préciser que, tu vois, parfois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le scope de pourquoi tu reçois plus de non à tel moment sur un nombre de personnes. Quoi.
Ouais, après, ce qui est important, je pense, c'est que si tu vois, pour quelqu'un qui est freelance comme moi, évidemment, si j'ai que des noms, ça va être problématique parce que, pour le client, tu vois, si je lui apporte rien, moi, si tu veux, j'aurai des éléments. Si j'ai que des noms, peut-être que je vais avoir des éléments en tant que marketeur pour comprendre pourquoi j'ai que des noms et améliorer mes campagnes à venir. Mais effectivement, c'est mieux d'avoir des réponses, quitte à ce qu'elles ne soient pas positives, que d'avoir zéro réponse. Ce qui est le plus alarmant, c'est effectivement d'avoir vraiment zéro réponse. là, c'est qu'il y a, il y a des problèmes. S'il n'y a que des noms, ça peut être lié à plein de choses, mais ça peut aussi être lié à l'offre. Et enfin, ce que je voulais ajouter en termes de stats aussi, la stat un peu finale, que tu peux avoir en termes de taux de booking, de taux de conversion, en moyenne, tu vas être entre 2 et 5%. Donc, ce n'est pas si énorme que ça. Encore une fois, c'est des moyennes. Encore une fois, on peut faire 10 fois mieux, évidemment. Mais en termes de moyenne, on va plutôt être sur ce ratio.
Ouais, c'est déjà pas mal, en fait, avec un canal qui est LinkedIn et l'email sans intégrer la partie content, sans intégrer la partie call-call. Je trouve ça, en tout cas, pas mal. Si tu rajoutes d'autres canaux, tu peux monter encore plus loin à ce niveau-là.
Bien sûr, ouais.
Surtout les boîtes, par exemple, qui font de l'USIO à côté. Enfin, tu vois, genre, il faut vraiment, là, du coup, peut-être insister sur le fait qu'on va être sur... on est sur deux canaux qui sont surexploités, ouais. En plus, surtout important de le dire, qui sont surexploités en fait par beaucoup de personnes. Ok, autre question.
Mais après, ce que je voulais ajouter aussi quand tu disais que qu'on pouvait ajouter le SEO, le contenu LinkedIn. Tu vois, sur le contenu LinkedIn précisément, ça a quand même un gros rôle quand tu fais de la prospection LinkedIn. De le faire avec un profil qui est actif, qui poste, qui a déjà peut-être une petite notoriété, etc. Ça sera toujours beaucoup plus efficace. Parce que si la personne a envie de te répondre, ce qui va se passer très probablement, c'est qu'elle va visiter ton profil. Et tu vois, là, soit ton profil il est vide, soit elle voit que t'es une vraie personne qui est active, qui publie du contenu, ça va asseoir ta légitimité sur un sujet. Donc ça, c'est clair que... J'allais dire une astuce, mais c'est même pas une astuce. C'est pour prospecter sur LinkedIn, aujourd'hui, tu es quasiment
obligé d'avoir une activité.
Du moins, c'est beaucoup plus simple d'avoir une activité.
Non, mais en fait, tu veux bien le dire, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux justement qui disent « Ouais, moi, je suis commercial, j'ai pas que ça à faire. Moi, je vais contacter, je vais utiliser mon Sales Navigator et puis je vais aller contacter from scratch des personnes sur LinkedIn. » Ça, c'est hyper important, en tout cas pour les motiver à faire du contenu. L'idée, c'est pas de faire du contenu tous les jours pour se construire une brand, mais au moins quand on est commercial, en plus d'une boîte, on peut parler de sa boîte, on peut présenter un use case, on a plein de possibilités en termes de contenu à faire. Et pour moi, pour rajouter un peu un retour d'expérience là-dessus, à chaque fois que j'ai fait des campagnes, en plus sur des profils qui n'étaient pas vraiment en lien avec ce que je partage, parce que je partage principalement du contenu sur le sales. Et beaucoup des dernières campagnes que j'ai faites, c'était sur les DRH. Donc, a priori, je ne parlais pas de recrutement ou je ne parlais pas d'inclusion, diversité. C'était les deux problématiques sur lesquelles je parlais beaucoup. Ou en tout cas, sur lesquelles, pardon, je prospectais beaucoup. Et en fait, j'avais un taux, tu vois, d'acceptation. Tu parlais tout à l'heure d'un taux d'acceptation de 30 à 35%. Enfin, moi, il était largement élevé. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est tout simplement, j'en ai fait la conclusion que les gens allaient voir mon contenu. Aller voir mon profil, voyez que je faisais des posts. Là maintenant, avec le badge Top Voice, ça augmente encore plus parce qu'on se dit elle a des choses
en
à
plus,
dire.
Ouais.
Voilà, du coup c'est juste un petit bonus qui fait que en fait faire du contenu, ça fait que tu passes beaucoup moins pour le sales un peu relou qui va bombarder la personne. Donc du coup, tu passes pour quelqu'un qui
expertise.
Exactement. De fou.
Ça m'étonne pas que tu aies pu largement augmenter ces chiffres.
Ouais, mais c'est clairement
lié
à ça.
C'est lié à ton podcast aussi, c'est lié à plein de choses. Tu vois, ça reste un écosystème global. Mais clairement, faire du contenu, c'est super important.
Clairement. Ok, du coup, très bien pour ça. Je voulais juste aussi également, parce que ça m'est venu comme ça la question avant de parler d'un exemple de campagne, parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après, donc l'idée c'est qu'on soit efficace. Mais j'aimerais juste te poser la question un petit peu sur les proportions, en fait. Il m'arrive beaucoup d'accompagner des boîtes et je vois que parfois c'est assez énorme, tu vois, le nombre de contacts qu'elles vont intégrer dans leur campagne, etc. Elles vont automatiser avec des outils type Lemlist, la grosse machine, etc. Toi, est-ce que tu as des recos là-dessus ou en fait pas du tout, ça dépend du secteur, etc. Ou pour justement suivre et déclencher ces conversations, ça demande de ne pas avoir tu vois, des centaines et des centaines de personnes à activer tu vois, toutes les semaines.
Ouais, je peux évidemment, ça va dépendre de différents facteurs, mais je peux quand même te donner des fourchettes. Ce que je voulais préciser juste avant, c'est que je pense que ton audience est familière avec ça, mais c'est qu'il y a quand même une notion qui est importante de tiers 1, tiers 2, tiers 3.
Ouais.
Que sur ton tiers 1, surtout si tu as une taille de marché adressable qui n'est pas énorme, c'est peut-être pas la meilleure idée d'automatiser. C'est peut-être bien d'aller parler en vrai à chacune de ces personnes et d'avoir des conversations qui ne sont pas du tout automatisées. Surtout quand bah derrière, t'as une offre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, que c'est pas quelque chose qui se vend facilement et que tu peux vite cramer tes cartouches parce que ta taille d'audience adressable est pas énorme. Là-dessus, je veux pas forcément automatiser. Ensuite, sur le reste, enfin, je veux pas conseiller d'automatiser. Sur le reste, sur tiers 2, tiers 3, par rapport à la taille des audiences sur lesquelles j'envoie mes campagnes, c'est ça?
Ouais, c'est-à-dire que tu as des slots de combien par semaine, par exemple, grosso modo, même si effectivement, en fonction de la taille de marché, ça peut changer. Mais typiquement, je te le dis parce que moi, j'en connais encore qui font des campagnes où ils vont mettre 300 gus dans une campagne de mail, tu vois. Bon, moi, ça me paraît beaucoup, en fait, quand tu veux derrière, en fait, tu vois, si tu en as 200, alors ça n'arrive jamais, mais si tu en as 200 qui disent ouais, ok, cool, parlons, qui répondent à ta question parce que tu poses des super questions, tu vois, c'est compliqué ensuite d'avoir des conversations un peu intelligentes et qui vont apporter de la valeur et qui vont amener vers le bon rendez-vous. Évidemment, là, je suis dans la caricature, mais tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour, tu vois, parce que moi, je suis plutôt team. Je te pose la question parce que moi, je suis plutôt team. Je mets beaucoup. Peu de personnes, déjà j'automatise très peu, mais je mets peu de personnes en tout cas si je décide d'automatiser sur justement mon tiers 2 ou mon tiers 3. Du coup, j'ai pas, voilà. Et puis la plupart du temps, en fait, j'automatise pas. Donc forcément, si j'automatise pas, on en a déjà parlé, je vais pas pouvoir, tu vois, contacter des centaines et des centaines de personnes sur la semaine. Mais quand tu automatises, ce serait quoi pour toi le bon ratio?
En fait, sur ce que tu disais par rapport au fait que tu n'as pas forcément le temps de répondre, etc. Évidemment, ça, c'est un indicateur que tu vas prendre en compte. Il faut que tu puisses traiter les conversations derrière. Ça, c'est primordial. Il faut pas que ça soit... j'ai envie de dire, il faudrait pas que ça soit une limite. Sur la taille des audiences, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une audience de 300 personnes. En fait, moi ça me choque pas plus que ça. Tu vois. Ce qui va me choquer, c'est quand tu commences à dépasser les 1000 personnes.
Okay.
Dans la tech notamment, même en segmentant bien avec les bons signaux d'achat, etc. C'est possible que tu aies 300 personnes dans ton audience. Je dirais qu'au-delà, c'est quand même qu'il commence à y avoir un problème sur de la précision. C'est sûrement que tu peux faire un peu plus d'efforts sur de la segmentation. Mais 300 personnes, ça me choque pas.
Ok.
Enfin, encore une fois, bien sûr, si c'est pas sur ton tier 1, sur une cible ultra prioritaire, ça dépend aussi de l'offre que tu as à pousser derrière. Tu fais pas la même prospection si derrière tu cherches à pousser un petit SaaS qui coûte 15 euros par mois ou si tu cherches à pousser des contrats. Tu sais que quand ça signe à 100K. Ouais. Tu fais pas la même prospection chose. Là-dessus.
Clairement.
Sur les volumes, allez, pour donner un chiffre rond, moi généralement, je vais arriver entre 800 et 1200 personnes par mois parce que je cherche quand même... Ok, je cherche à hyper segmenter, je cherche à ne pas spammer, à être précis, etc. Maintenant, il faut être honnête, tu as quand même aussi une notion de volume qui rentre un peu en jeu.
Mais c'est ça que je voulais savoir. Parce que parfois, il y a des trucs un peu caricatural, tu vois, de dire qu'il faut contacter 10 personnes par semaine, etc. Et du coup, non, je te le dis, il y a l'inverse, tu vois, il y a le côté.
Ouais.
Voilà. Donc,
c'est un juste milieu. Je pense que tu as quand même besoin de volume. Évidemment, on est tous bien contents, tu vois, de dire, ouais, il faut hyper segmenter, machin. Et c'est vrai. Mais derrière, tu as quand même besoin d'un minimum de volume. Parce que si tu fais. Imaginons que je fasse 80% de taux de réponse sur un échantillon de 20 personnes et que derrière, j'ai mon tool que j'ai à pousser et coûte 20 euros par mois. Mais en fait, ça ne va pas être rentable pour mon client. Ça dépend des cas de figure, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre qualification, segmentation et volume. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus simple quand même de bien segmenter, d'avoir la bonne personnalisation. C'est de plus en plus simple parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de le faire facilement. Mais il faut quand même avoir un certain volume.
Ok, très clair. Alors, je sais que là, il ne te reste pas plus de 10 minutes, donc on va essayer d'être hyper efficace.
Ça va aller, on va réussir.
On va réussir. J'aimerais d'abord, avant qu'on passe... ça fait deux fois que je repousse, désolé pour les auditeurs, c'est l'exemple de la campagne, le meilleur pour la fin. Mais... on a oublié un point important, c'est ok, tu poses des bonnes questions, tu maîtrises l'art, t'as pas de réponse, t'as toujours pas de réponse, ce qui est la réalité de la vie de tout prospecteur. Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de réponse, quand t'as des blancs?
Ouais, bah alors évidemment, je vais avoir des relances dans mes campagnes. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai des blancs? Bah déjà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi souvent mes campagnes elles vont être en multicanal, donc. Ça peut me permettre de... si j'ai un blanc, parce que la personne, en fait, elle n'est pas très active sur LinkedIn, peut-être que par email, je vais avoir une réponse. Si j'ai pas de réponse, ça peut vouloir dire soit que la personne elle est pas du tout intéressée, bah ok, là si c'est vraiment pas intéressé, tu pourras pas y faire grand chose. Soit elle est potentiellement intéressée, mais t'as pas encore trouvé le petit truc qui va déclencher une réponse. Soit un autre cas qu'on oublie trop souvent, je trouve, c'est qu'en fait, bah souvent, tu sais, je pense que même toi, ça t'arrive. Tu reçois des messages, tu dis ok, c'est intéressant, il y a un truc, mais bah, en fait, dans 2 minutes, j'ai un call, donc j'ai pas le temps de regarder plus que ça. Et puis derrière, tu vas zapper, tu vas pas y revenir. Dans ces cas-là, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux pousser une ressource, on en parlait tout à l'heure. Tu peux apporter une précision par rapport à ce que tu as déjà dit. Tu peux, je sais pas moi, par exemple, tu as poussé ta proposition de valeur, tu as posé une question. Tu peux dire, bah tiens, j'ai vu qu'en fait, vous utilisez tel outil. Nous, on a une intégration qui permet de gérer ça simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Ce qui montre, encore une fois, que tu as fait tes devoirs d'aller chercher des infos sur la personne. Et puis, ça peut être un point bloquant pour la personne. Et c'est une occasion de lancer la conversation. Tu peux aussi parler d'une douleur alternative. Souvent, les outils, souvent un produit ou un service, il ne répond pas à une seule et unique douleur. Tu vois, il y a souvent plusieurs angles d'attaque. Donc, tu peux aussi essayer de varier sur les douleurs alternatives. Mais l'idée globale, quand même, c'est de ne pas spammer, c'est de continuer d'apporter de la valeur dans tes relances. Je ne m'interdis pas de faire un message où je vais dire, bah, tiens, est-ce que tu as bien reçu mes messages ou, un truc vraiment très simple, hein, qui tient en une ligne. Mais si tous tes messages, c'est est-ce que vous avez pu... Je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez... tu la connais, celle-là. Je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez pu prendre le temps de regarder mes messages? Là, effectivement, là, tu commences à arriver dans du spam. Puis après, t'as l'autre cas de figure où bah, peut-être que toi, tu vas bien connaître ça. C'est où t'as déjà une réponse qui est potentiellement intéressante. Et ça, c'est un cas qui arrive souvent, en fait. T'as quelqu'un tu sens qu'il y a un intérêt, donc tu réponds, tu fais ta petite réponse, etc. Potentiellement, tu proposes d'échanger, etc. Et là, t'as plus de réponse, tu vois.
Plus de son, plus d'image.
Si près du but. Ouais. Du coup, tu peux relancer là, avec les différents moyens que je viens d'énoncer. Un use case notamment, ça peut être pertinent. Mais sinon, moi, ce que je pense qui est bien à ce moment-là, c'est en fait, bah, prendre ton téléphone, appeler la personne. Tu peux avoir son numéro facilement. C'est même plus vraiment du call-call parce que la personne, tu as déjà échangé avec. Tu peux directement commencer par le fait que tu peux rebondir sur la conversation que tu as eue sur LinkedIn ou par mail et puis essayer de creuser à ce moment-là par téléphone. Je pense que c'est important dans ces cas-là où tu as réussi à avoir un intérêt, tu as réussi à avoir une réponse, de ne pas abandonner et de le faire au téléphone.
Et surtout, battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Ouais. Pas trop attendre parce que, en fait, les priorités d'une boîte, elles changent très, très rapidement. Ok, très bien, très clair. Bah, du coup, maintenant, pour illustrer tout ça, du coup, je pense que tu es le plus à même de nous dire, donner un peu un exemple de campagne qui fonctionne bien. Je le rappelle, hein, tu as quand même du coup un média que tu as développé justement autour de ça, où tu partages tout simplement des campagnes outbound testées par des sales du coup, ou des growth marketers. Du coup, est-ce que tu peux nous en donner une? Voilà, que tu as.
Ouais, bah, je veux même t'en partager deux. Et en fait, si tu veux, les campagnes que je veux te présenter là, enfin, je veux te présenter le premier message, on va pas faire les relances, etc. Mais ça va illustrer les points que j'ai donnés un peu plus tôt. Donc, un premier exemple que j'ai de campagne que moi j'ai fait, qui avait bien fonctionné et qui va illustrer le côté ressources dont je parlais, c'est une campagne que j'ai fait pour une fintech avec une cible d'experts comptables qui font du conseil patrimonial. En fait, ma première difficulté en termes de segmentation, là, c'était d'identifier les experts comptables qui font du conseil patrimonial, parce qu'en fait, la plupart des experts comptables n'en font pas. Donc, pour ça, ce que j'avais fait, en termes d'outillage, hein, c'était du Sales Navigator, une segmentation via les études. Et en fait, on avait trouvé une petite formation, un diplôme qui est passé généralement alors que les experts comptables exercent déjà. Certains, en fait, ils ont passé un diplôme spécifique qui est lié au conseil patrimonial. Donc, en fait, quand tu vois ça sur leur profil, et c'est une information que tu peux facilement segmenter avec SalesNav, c'est que tu sais qu'il y a 90% de chances qu'ils fassent du conseil patrimonial. Et là où j'avais de la chance, c'est que mon client, en l'occurrence, il a aussi fait cette formation. D'ailleurs, c'était une information qui était visible sur son profil LinkedIn. Et ça me permettait d'accrocher mon prospect avec ça. Tu vois. Je lui dis, bah, tiens, ok, j'ai vu que tu as fait telle formation. Moi aussi, je l'ai fait. J'en suis très content. Ça fait un premier angle pour ouvrir la conversation. Tu vois, le fait, le côté un peu alumni, etc. Surtout quand c'est des petites formations un peu niche, ça peut permettre de déclencher la conversation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette accroche, tu vois, moi, je place pas les accroches ou les icebreakers juste pour essayer de trouver un truc personnalisé. Il faut que ça soit lié au reste de ton message. Sinon, pour moi, tu perds complètement en efficacité et ça sert à rien. Mais là, à la suite de mon message, c'était lié à cet aspect conseil patrimonial. Et en fait, je lui propose une ressource. Et c'est une ressource qui a été faite avec l'outil de mon client. Pareil, comme je disais tout à l'heure, je ne renvoie pas directement la ressource. Dans un premier temps, je lui demande si ça l'intéresse.
Ok.
Question à laquelle il est simple de répondre.
Ouais, oui, non.
Et ça me fait donc un deuxième axe pour enclencher la conversation. Et puis, une fois la conversation déclenchée, tu vois, ça, si la ressource... encore une fois, la ressource, elle était personnalisée, etc. Si la ressource, elle est quali, c'est beaucoup plus simple de partir sur une démo. Donc, tu vois, sur cette campagne, à la fin, j'avais eu 45% de taux de réponse et environ la moitié est passée sur un call derrière.
Propre. Juste une petite question par rapport à ça. Quand la personne te répond oui, que tu as envoyé une ressource personnalisée et qu'elle est cool, comment justement tu passes de ce moment-là, c'est ton petit secret, la secret sauce, ouais, de ce moment-là à la démo, comment tu passes justement, parce que ça n'est pas forcément évident, tu vois, la personne dit bon, ok, fine, j'ai la ressource, je la prends et puis.
Ouais. Bah là, en fait, là, dans ce cas précis, tu vois, la ressource, comme je te disais, elle était faite avec l'outil de mon client. Donc si tu veux. Si j'avais donné un truc qui avait rien à voir avec l'outil, là ça peut être plus compliqué de passer sur un call. Là c'est peut-être le moment où tu vas passer sur une optique presque setting où tu vas chercher des infos pour relancer la conversation, etc. Là ça s'est fait assez naturellement parce que c'était un PDF issu de l'outil de mon client. Donc si tu veux, sans trop d'efforts, c'était assez simple d'embrayer sur la proposition de, je sais pas si c'était noté comme étant une démo ou juste un call, mais c'était assez simple d'embrayer là-dessus. Okay, mais ça va dépendre de la ressource. Ouais.
Ok, nickel. Tu en avais une petite deuxième, genre juste pour finir peut-être.
Ouais, bah du coup, c'est... la deuxième, c'est une campagne qui a été présentée sur Adburn House par Alexis, qui a cofondé Faro, donc qui a un outil, tu sais, un outil de base de données pour la prospection avec énormément de filtres. Un outil que j'aime beaucoup, d'ailleurs, bref. Et en fait, il est passé sur Adburn House. Et là, ce qui est intéressant, lui, c'est en termes de segmentation. Si tu veux, la séquence qu'il a présentée, c'était une séquence pour l'acquisition de Faro. Et donc, il voulait trouver les gens qui faisaient déjà du cold email. Et c'est pas forcément une information que tu trouves facilement, ça, le cold email. Tu vois, tu peux facilement trouver les boîtes qui font des efforts SEO parce que tu vois qu'elles ont du contenu sur leur blog, etc. Tu peux facilement trouver les boîtes qui font du LinkedIn Ads parce que tu as les librairies LinkedIn Ads, etc. L'information sur qui fait de la prospection, à moins d'avoir des growth outbound directement dans la boîte, bah, c'est pas forcément facile à trouver, notamment sur des petites boîtes PME qui n'ont pas forcément des profils dédiés. Donc en fait, là, lui, il avait utilisé l'Emlist, et sur l'Emlist, il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'Emcall, qui permet de réchauffer les emails donc dans une optique de délivrabilité. En fait, ça simule des conversations par email entre les utilisateurs de l'EmoArm. Lui, derrière, en fait, il a allé chercher les mails des autres utilisateurs avec lesquels il a eu des conversations fictives. Et ça lui permet d'avoir une base de prospects, de personnes dont il sait qu'ils font déjà du cold emailing. Tu vois. Et ça, c'est... Tu vois, encore une fois, c'est le genre de petit effort... C'est un peu relou à faire parce que...
Là, on est sur du vrai intent data. Mais c'est important que tu le dises parce que parfois, aujourd'hui, on entend parler d'intent data et on est sur des trucs assez basiques. Genre justement, ce que tu pouvais dire, aller regarder sur ses navigateurs si la personne est en levée de fonds. Bon, ça ne te dit pas grand-chose. Une boîte qui est en levée de fonds, tu vois, ce n'est pas forcément toujours en plus...
C'est surexploité juste... comme
c'est surexploité. Data. Et puis, ce n'est pas toujours en plus le bon moment. Tu vois, genre, ils ont fait une levée de fonds, ils l'ont annoncé le mercredi. Tu arrives en disant, vous avez fait une levée de fonds, j'aimerais ça. Bon, c'est pas le moment. Il y a plein de trucs qu'ils ont à faire d'abord avant de répondre peut-être sur ton sujet ou sur le problème que tu veux résoudre. Donc, en tout cas, là, c'est vraiment du vrai intent data et ouais, c'est bravo, quoi. Mais en même temps, c'est bien que tu le dises parce que ça permet en fait aux auditeurs de se dire, voilà, c'est vraiment l'extra mile, le truc que peu de personnes vont faire et du coup qui fonctionne. Parce que là, tu as une approche qui est juste formidable. Quoi, genre...
C'est souvent ça en matière d'intent data. De toute façon, plus c'est compliqué à récupérer, plus ça demande des efforts, moins il y a de gens qui vont l'utiliser et plus ça fera son effet quand tu l'utilises dans la prospection. Et tu vois, là, Alexis, après, dans son mail, si tu veux, il partait de ce constat que la personne fait du cold email. Il parlait de sa solution et il demandait un avis. Aujourd'hui, le fait de demander un avis, je trouve que ça marche. Tu vois, ça, c'est une séquence qu'il a dû faire il y a un an et demi. Aujourd'hui, le fait de demander un avis sur l'outil, je pense que les gens, ils ont compris, tu vois, que quand tu demandes un avis sur l'outil, c'est juste que tu as envie d'avoir des testeurs et en fait, l'avis, tu t'en fiches un peu. Donc, je ne l'utiliserai pas forcément aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, c'était une bonne solution pour lancer la conversation. Mais tu vois, aujourd'hui, ils pourraient simplement poser des questions pour savoir comment ils font pour créer des listes de prospects. Ils pourraient appuyer sur des douleurs. Tu vois, la douleur à laquelle répond Faro, c'est que si tu passes par SalesNav, tu dois avoir SalesNav, tu dois avoir un outil pour scraper, tu dois avoir un outil pour enrichir, potentiellement un outil pour vérifier, même si ça tend à se réduire. Mais il aurait pu appuyer sur ces douleurs-là. Maintenant, ce qui est intéressant là, sur la séquence-là, c'est quand même en termes de segmentation, si tu as une bonne segmentation, tu pourras enclencher plus facilement des conversations. Et c'est là-dessus que je voulais insister.
Complètement. Bah, du coup, en plus, c'est une bonne manière de finir l'épisode, notamment en disant que en fait, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Donc, avec vraiment cette nécessité en fait, d'itérer, de tester toujours. Toi, du coup, c'est quoi ton process justement pour pouvoir toujours te mettre à jour, etc.
Tester par moi-même. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Je pense qu'il y a pas de. Il y a très rarement des vérités absolues, tu vois, en matière de prospection. T'as telle personne qui va dire ça marche plus. Tu vois, on a beaucoup entendu que les e-books, ça marchait plus, que telle chose marchait plus. Je pense que ça dépend vraiment de ta cible. Il y a des choses où on va dire ça marchait en 2023, ça marche plus. Si, sur certaines cibles, ça peut encore marcher. Donc, tester des nouvelles choses et ne pas s'arrêter sur des dogmes.
Ok, très clair. En tout cas, merci énormément, Florian. Du coup, je le redis, si vous avez envie d'avoir des conseils sur comment être un as de la prospection, notamment outbound, allez vous inscrire. C'est une des rares newsletters dans lesquelles je dis allez go sans hésiter. Allez vous inscrire, c'est sur Substack. Vous avez un podcast, vous avez une newsletter et vous avez d'autres formats qui vont arriver. Donc gros média, outbound. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Florian, par rapport à ça.
Non, trop bien, super. Écoute, merci encore pour l'invitation. C'était
avec
plaisir.
Merci pour toute la valeur que tu as apportée. Même moi, en fait, tu m'as donné deux, trois petits trucs pour pouvoir pimenter mes campagnes qui vont arriver. Du coup, merci beaucoup. Bien. Et écoute, je te dis à très bientôt et du coup, bon courage pour ta prospection. Ciao, ciao.
Merci Laetitia, ciao ciao.
À plus. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.